Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 23 octobre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Depuis la dernière semaine, on a eu des marchés boursiers qui ont quand même bien performé. Le TSX au Canada est en hausse de 1,1%. Le S&P 500, un petit peu moins, en hausse de 0,6%. Le Nasdaq en hausse de 1,4%. Le Nasdaq, les clients, il y a peu de clients qui détiennent la compagnie Nvidia directement, mais c'est un des titres importants dans un des fonds là, que beaucoup de clients détiennent. Là, c'est le plus gros titre au portefeuille. Et le titre a retourné à un nouveau sommet hier. Donc, ça peut certainement avoir contribué à la surperformance du Nasdaq à court terme. Ce qui retient l'attention, aujourd'hui, la Banque du Canada va se prononcer sur son taux directeur. On s'attend largement à une baisse de 1,5%. Il y a même eu un article là, dans un des journaux qui disait « Pourquoi pas faire 3/4 tant qu'à faire? » Moi, j'y crois pas du tout, là, mais bon, on verra bien. C'est possible aussi que ce soit seulement 0,25 point. Mais par contre, même si on s'attend donc à une baisse de taux de la part de la Banque du Canada, les taux d'intérêt des obligations 10 ans au Canada ont augmenté depuis quelques semaines. On est maintenant à 3,23% alors qu'on était à 3,14%. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que l'économie, entre autres américaine, est plus solide que prévu, elle est plus résiliente. Donc, les baisses de taux, là, on l'a déjà mentionné, là, mais les baisses de taux sont donc repoussées dans le temps, ce qui fait que le marché obligataire se réajuste à ça. On rentre dans une période, je pense, qui va être assez intéressante pour les deux prochaines semaines. On a énormément d'entreprises qui vont publier les résultats financiers. Et puis en plus, qu'est-ce qui arrive dans deux semaines? Il va y avoir des élections aux États-Unis là, dans environ deux semaines. Donc, période de volatilité à prévoir, possiblement. Ça va être quoi le résultat des élections? J'en ai aucune idée, là. Peu importe, ça va certainement avoir un impact sur les marchés à la hausse ou à la baisse. Donc, on surveille ça de près. L'annonce de la Banque du Canada un petit peu plus tard aujourd'hui. Et puis, les résultats des entreprises là, dans les portefeuilles des clients. Waste Connection va annoncer aujourd'hui. CN Rail hier a annoncé des résultats qui étaient, somme toute, pas très, très bons. Il y a eu quand même une grève. Il y a eu les feux de forêt aussi qui ont eu un impact sur les résultats. Donc, par contre, les résultats étaient moins mauvais que prévu. Donc, le titre a réagi positivement hier soir après la fermeture des marchés. Donc, on va surveiller ça de près.
Puis, on rappelle que même s'il va y avoir peut-être de la volatilité à court terme, on ne fait rien, on reste investi, on ne s'embarque pas dans...
Exact. On ne fait pas de prédiction ni à la hausse ou à la baisse. On n'a aucune idée qu'est-ce que le marché va faire. Ça peut être volatile, mais l'important, c'est de continuer de détenir des bonnes entreprises à long terme.
Merci, Martin. Avant de débuter avec notre sujet principal cette semaine, peux-tu nous expliquer comment cette nouvelle réalité avec l'inflation au Canada peut affecter l'économie? Est-ce que c'est positif ou négatif comme nouvelle?
Je pense que c'est positif. On mentionnait que l'inflation, on était à du 7-8% il y a un an et demi. On est redescendu à 1,6 à la dernière annonce la semaine passée. 1,6, c'est en bas de la cible de la Banque du Canada. Je pense que pour les consommateurs, c'est quelque chose qui est positif. C'est aussi positif dans le sens où les outils des banques centrales ont fonctionné. Là, on peut avoir un débat sur, il n'y aurait plus rien faire puis ça aurait baissé pareil. Peut-être, mais la théorie économique, si les taux d'intérêt augmentent, ça fait ralentir l'économie puis ça favorise une baisse de l'inflation. C'est ce que la Banque centrale a fait et ça a fonctionné. L'inflation est maintenant redescendue. Il faut faire attention, par contre, à la déflation. Donc, on aimerait tous ça, que ça coûte moins cher. Pour l'économie, là, c'est terrible si les prix se mettent à baisser. Pourquoi c'est terrible? Parce que si je prévois acheter un frigidaire dans les prochaines semaines ou prochains mois, puis je me rends compte que le prix va baisser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre. Puis là, plus j'attends, la compagnie de frigidaire, elle n'a pas vendu un frigidaire. Donc, peut-être qu'elle va devoir mettre des employés à pied parce qu'elle a moins vendu de produits. Et là, ben plus elle met du monde à pied, ben plus les gens attendent, les prix baissent, donc on attend plus, puis ça fait une espèce de boule de neige où les gens deviennent, là, ils arrêtent de consommer complètement, puis là, l'économie ralentit. Donc, les gens qui souhaitent que les prix baissent, là, vous voulez pas ça. Ce qu'on veut, c'est que les prix arrêtent de monter, et qu'ils montent, en fait, entre, tu sais, 1,5 à 2,5 %. La Banque centrale est heureuse avec ça. Ça signifie une économie qui est en santé, qui progresse bien, que les gens travaillent, mais les prix montent pas trop, puis de façon contrôlée et prévisible. C'est ça que la Banque centrale veut.
Donc, en réalité, comme avec beaucoup de choses dans la vie, on veut de l'équilibre.
On veut de l'équilibre, exact.
C'est ça. Merci beaucoup. La majorité des investisseurs connaissent bien les grandes entreprises qui se transigent sur les différentes bourses dans le monde. Tu as parlé d'NVIDIA, ouais. CN, etc. Cependant, plus rares sont ceux qui sont en mesure d'intégrer dans leur stratégie d'investissement ou peut-être de comprendre des sociétés de plus modestes en termes de taille, mais qui demeurent quand même prometteuses. Alors, cette semaine, nous allons expliquer ce que sont ces compagnies, pourquoi elles sont intéressantes pour les investisseurs et quels sont les risques et avantages d'y investir et comment on propose de les intégrer dans une stratégie d'investissement.
Ouais.
Donc, peux-tu commencer premièrement par nous expliquer comment on définit des petites, moyennes entreprises et quelle est la différence entre le Canada et les États-Unis?
Donc, on va souvent utiliser le terme capitalisation. Okay? Donc, on va parler d'une petite capitalisation, une grande capitalisation. Donc, le terme capitalisation fait référence à la valeur totale de toutes les actions cotées en bourse d'une entreprise. Donc, au Canada, la définition d'une petite capitalisation, donc d'une petite entreprise, c'est une entreprise dont la totalité des actions vaut moins de 1 milliard de dollars. Au Canada, c'est quel genre d'entreprise qui vaut moins de 1 milliard de dollars? Bien souvent, c'est des compagnies minières et des compagnies pétrolières. Aux États-Unis, la différence, et aux États-Unis puis dans le reste du monde, la définition d'une petite capitalisation est bien différente. En fait, elle est 10 fois plus grosse. Donc, une petite entreprise aux États-Unis, c'est une entreprise qui vaut moins de 10 milliards de capitalisation boursière. 10 milliards américains. Donc, quel genre d'entreprise au Canada vaut moins de 10 milliards américains que les gens connaissent, là? Ben, Industrielle Alliance, Saputo, CAE, Northland Power. Donc, c'est quand même des grandes entreprises au Canada, mais aux États-Unis, ce serait considéré comme des petites entreprises. Donc, c'est pas complètement... Tu sais, c'est pas des PME avec 12 employés, là. C'est quand même des grandes compagnies, mais donc ils valent moins de 10 milliards. On va appeler une moyenne capitalisation, donc une entreprise de taille moyenne, une compagnie qui vaut entre 10 et 50 milliards. Et plus de 50 milliards, ce sera une grande entreprise. Pour vous donner une idée, ben, tu sais, Microsoft, c'est 3 000 milliards. Donc, c'est quand même pas mal plus gros, là, ça. Donc, ça, on fait référence aux méga cap à ce moment-là, là, les méga entreprises là, qui valent des centaines de milliards de dollars.
Excellente perspective. Donc, nous connaissons tous les indices qui regroupent les sociétés à grande capitalisation, ouais. Mais quels sont les indices pour les petites et moyennes entreprises?
Ouais, donc quand on veut comparer la performance d'un gestionnaire, ben, on veut le mesurer à un indice de titre comparable. Hein? On ne veut pas comparer des pommes avec des oranges, on veut comparer des pommes avec des pommes. Donc, un gestionnaire de petite capitalisation ne va pas se mesurer au S&P 500, qui est l'indice là, qu'on mentionne souvent au début du podcast, qui est les grandes entreprises américaines. Donc, l'indice de petite capitalisation aux États-Unis, le plus connu, c'est le Russell 2000, qui contient donc 2000 entreprises de moins de 10 milliards de capitalisation boursière. L'autre indice qui est également connu, MSCI World Small Cap Index. Donc, l'indice qui va regrouper toutes les petites capitalisations des marchés développés, 4052 composantes. Là. Il y a 4052 entreprises dans cet indice-là. Donc, c'est très représentatif. C'est beaucoup de compagnies. Donc, il y a différents indices comme ça qui existent. Le S&P 500, le S&P US Small Cap, qui a 600 composantes. Mais vraiment, là, aux États-Unis, Russell 2000, au monde, MSCI World Small Cap. Ce sont les deux principaux.
Et quelle est, selon toi et moi, on partage souvent les mêmes opinions, la meilleure manière d'intégrer ces actions dans une stratégie d'investissement?
Ben nous, on pense que s'il y a une place où il y a un gestionnaire actif peut générer de la valeur, c'est fort probablement dans les petites entreprises.
Un gestionnaire actif, explique juste pour être sûr.
Ouais, donc oui. Vraiment par rapport aux fonds négociés en bourse indiciels, où là, ben on peut acheter un FNB, un fonds négocié en bourse, qui va refléter la performance du Russell 2000, où là, on détient les 2000 entreprises, les bonnes comme les moins bonnes. Il n'y a pas d'opinion qui a été mise, on détient le panier au complet. La gestion active, ben le gestionnaire va s'efforcer à l'intérieur de son univers investissable, donc qui est peut-être les 4052 entreprises du MSCI World, de sélectionner 50, 60, 80 de ces entreprises-là en espérant avoir une meilleure performance que l'indice. Donc, c'est sûr que quand on travaille dans l'univers là, du S&P 500, il y a des dizaines d'analystes, si c'est pas dans certains cas des centaines d'analystes qui couvrent chacune des entreprises. Donc, tu sais, Microsoft, là, il y a plus de 100 analystes qui couvrent la compagnie. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas de Microsoft. Tu sais, tout le monde connaît toute Microsoft au complet. Donc, comment un gestionnaire peut trouver une perle rare, une entreprise sous-évaluée qui pourrait avoir une surperformance dans le futur? Dans les grandes entreprises, le marché est très efficient, il est très efficace, le prix au marché reflète toute l'information connue. Alors que dans les plus petites entreprises, ben, il y a un petit peu plus de potentiel d'aller trouver des perles rares moins connues. Dans les recherches là, que j'ai faites, dans le MSCI World, donc il y a combien d'entreprises par taille qui sont couvertes par moins de 10 analystes? Ben dans les entreprises de plus de 100 milliards de capitalisation boursière, il n'y en a aucune. Toutes les entreprises qui valent plus que 100 milliards, il y a au moins 10 analystes qui les connaissent. Quand on descend en taille, là, entre 5 et 10 milliards, 155 entreprises qu'il y a moins que 10 analystes. En bas de 5 milliards, 544 entreprises. Donc ça, c'est le terrain de chasse d'un gestionnaire de petite entreprise. C'est dans ces 700 compagnies-là qui sont moins connues, moins couvertes par les analystes, ou peut-être qu'un gestionnaire actif avec son équipe d'analystes va découvrir une entreprise qui a une bonne équipe de gestion, qui a une bonne rentabilité, puis peut-être qui va passer d'une petite entreprise puis devenir une moyenne et éventuellement devenir une grande. Puis c'est ça l'objectif du gestionnaire, c'est pas de gérer des petites entreprises éternellement, c'est de trouver les petites qui vont devenir des grandes éventuellement.
Parfait. Puis quels sont les risques et avantages d'investir dans des entreprises, de telles entreprises?
Ouais, ben il y a toujours du risque. Hein? Si on veut une performance supplémentaire, c'est jamais tout rose. Là. Il faut quand même avoir une certaine réalité. Les plus petites entreprises sont souvent moins solides financièrement. Ils ont des fois moins accès au crédit. Donc, ils peuvent être aussi plus volatiles, plus sensibles aux fluctuations de taux d'intérêt. Donc, la période qu'on vient de vivre en 2022-23 avec des hausses de taux. Donc, c'est des entreprises qui peuvent être moins favorisées dans ce genre de contexte-là. C'est aussi un secteur qui est moins liquide. Donc, comme elles sont plus petites, il y a moins d'actions qui transigent. Ben, s'il y a un gros gestionnaire qui détient une grosse position qui veut sortir, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de transactions sur ce genre de titres-là. Par contre, du côté des avantages, ben il y a un assez gros avantage au niveau de la diversification. Le S&P 500 aux États-Unis, il est composé à 32% de titres en technologie. 13% en financière. Du côté des petites entreprises, ben c'est 20% en titres industriels, 15% en financière, 13% en consommation discrétionnaire, seulement 11% en technologie. Donc, on va aller trouver plus d'entreprises dans des secteurs industriels, dans différentes entreprises variées qui vont améliorer la diversification d'un portefeuille. Au Canada, t'sais, on va mettre un petit bémol. La réalité, si on achète des petites entreprises au Canada, on va avoir beaucoup de pétrole, beaucoup de minières. Fait que c'est moins intéressant et c'est des plus petites entreprises. Mais dans le reste de la planète, il y a vraiment un bel avantage de diversifier dans d'autres business que juste la technologie. Il y a une question d'évaluation aussi. Historiquement, ben, le ratio cours-bénéfice, donc quand on prend la valeur de l'entreprise, on divise ses profits par le prix de l'action, là, ça nous donne le ratio cours-bénéfice. C'est une mesure souvent utilisée pour dire ben, est-ce que l'entreprise elle est chère ou elle n'est pas chère. Okay? Donc, quand on achète une compagnie, ce qu'on veut, ben, on veut payer pour les profits futurs de l'entreprise et combien de fois on paye pour les profits. Donc, historiquement, les petites entreprises, depuis 10 ans, avaient un ratio court-bénéfice de 24 fois les bénéfices. C'est normal, ils ont plus de croissance, donc on est prêt à payer un petit peu plus cher pour la croissance. Les grandes entreprises, c'était 18 fois les bénéfices. Aujourd'hui, ben, les ratios sont inversés. Les grandes entreprises aux États-Unis, en moyenne, sont à 23 fois les bénéfices, alors que les petites entreprises sont à 16 fois les bénéfices. Donc, il y a peut-être une certaine dislocation au niveau de l'évaluation relative. Là, on a des petites entreprises qui ont probablement un bon potentiel de croissance, mais qui transigent vraiment pas cher par rapport au Microsoft, au Nvidia, au Tesla, au Meta de ce monde-là. Donc, les magnifiques 7 là, aux États-Unis dont on fait souvent référence, ben, ils ont tiré à la hausse l'évaluation totale du S&P 500 et ça a laissé dans la poussière les plus petites entreprises qui sont un peu ignorées par la majorité des investisseurs. Nous, on est des croyants du retour à la moyenne, donc bien souvent, quelque chose qui sous-performe pendant un bout de temps, bien, pourrait éventuellement remonter. Donc, c'est important de vraiment l'aborder d'un point de vue diversification. Donc, de pas faire, on n'est pas en train de recommander ou de faire d'anticipation de marché. On est simplement en train de dire, bien, dans la composante d'un portefeuille bien diversifié, bien, il devrait avoir une certaine portion dans un portefeuille de petite capitalisation.
Et ça dépend toujours de votre profil de risque.
Évidemment.
Ça dépend toujours de votre tolérance à la volatilité, etc. Donc, je suis bien contente que tu as dit ça, Martin. Ce n'est pas une recommandation. C'est question de bâtir un portefeuille bien diversifié.
Ouais.
Donc, merci beaucoup. Pour tous nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.